Vous écoutez
RMC.
21h44, vous êtes sur RMC en direct du studio Roland Courbis. La reprise du match entre Marseille et Strasbourg, c'est dans quelques secondes. Pour l'instant, 0-0. Une première mi-temps vraiment sympa, avec des occasions, mais pas de but. Et le foot, c'est des buts. Et des buts, il y en a où ? Il y en a en Ligue 2. Corentin Roland, on s'approche de la fin de cette troisième journée. On rappelle 5 matchs au programme.
Oui, avec un but à l'instant marqué par Brandon Bokangou pour Nancy. Nancy mène 1-0 sur la pelouse de Pau désormais. 1-0, c'est également le score pour Sochaux qui est tout proche de son premier succès de la saison. Sochaux mène 1-0 face à Guingamp, 89e minute de jeu. Un partout entre Boulogne et le Red Star, 0-0 entre Clermont et Dijon. Et Montpellier également, on ne l'a pas dit, mène 1-0 sur un but de Nicolas Pays. On est à la 88e minute de jeu. Bonne opération des hommes de Zoumana Camara qui sont en train de contenir la meilleure attaque de Ligue 2.
Effectivement, et on rappelle évidemment, parce qu'en plus je suis aux côtés d'un homme vert. Alors non, il a un visage blanc, vous inquiétez pas, mais je suis aux côtés de Christophe Plenet qui est amoureux de Saint-Etienne. Demain, Saint-Etienne jouera face à Grenoble. Saint-Etienne qui a parfaitement réussi ses débuts. On rappelle 2 matchs, 2 victoires avec 4-0, mais Christophe Plenet m'a quand même dit il faut pas s'emballer. L'an dernier, on avait 4 points après 2 journées. On pensait qu'on allait marcher sur la Ligue 2. Bon, finalement, on est resté en Ligue 2. Donc, effectivement, soyons calmes. Mais en tout cas, Saint-Etienne, pour l'instant, a réussi ses débuts.
Et le but dijonnais à l'instant.
Ah ben oui.
Dijon à la 90e minute de jeu. Dans la dernière minute du temps réglementaire qui ouvre le score, c'est l'expérimenté Jordan Marié là, au deuxième poteau, qui vient reprendre le ballon et battre le gardien clermontois. Les promus sont à la fête. Sochaux mène 1-0 et Dijon mène 1-0 désormais sur la pelouse de Clermont.
Magnifique. Les autres affiches, donc demain, la troisième journée continue. Metz, relégué en Ligue 2, recevra Laval. Nantes, relégué en Ligue 2 et qui est déjà en crise après 2 matchs et 2 défaites, recevra Rodez. Et donc Saint-Etienne-Grenoble, ça sera demain soir. On le rappelle, il y a également de l'Angleterre qui joue. C'est la reprise également en Première Ligue, avec pour l'instant Arsenal qui recevait le promu Coventry. Et pour l'instant, tout va bien pour le champion. 2-0 pour les Gunners. Havertz et Saka sont les buteurs. On est dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. On vous le rappelle, c'est la reprise de la Ligue 1 et c'est à vivre sur RMC avec les 34 journées évidemment tout au long de cette saison. Marseille-Strasbourg pour l'instant 0-0. On attend les buts en seconde période. Guichet fermé pour cette première au Vélodrome. Ça se joue avec Florent Germain et Maxime Tilliette. Et là, on voit actuellement les Strasbourgeois qui discutent dans les travées du Vélodrome, messieurs.
Tout à fait, les Strasbourgeois qui vont visiblement être les premiers à retrouver la pelouse du Vélodrome, à moins que l'image dont on dispose soit trompeuse. En tout cas, c'est un score pour le moment de 0-0 qui nous donne un petit goût amer, puisque c'est pas forcément la physionomie de la rencontre, hein. Il y a eu pas mal d'occasions et surtout un match où ça allait d'un camp à l'autre, donc qui mériterait d'avoir quelques buts, pourquoi pas. En tout cas, c'est peut-être partie remise pour la seconde période. Entrée de quelques Strasbourgeois et les Marseillais qui vont suivre. Les sifflets, c'est parce que Nanasi, Guéladoué et leurs coéquipiers sont en train d'entrer sur la pelouse du Vélodrome.
Et vraisemblablement les mêmes 11 acteurs du côté Strasbourgeois. On va scruter côté olympien la sortie du tunnel. J'imagine pas Bruno Genesio touché à quelque chose non plus après cette première période. Et on peut les voir ressortir petit à petit, les Marseillais. J'ai l'impression qu'on va repartir avec les 22 mêmes acteurs, ce qui semble logique au vu de cette première mi-temps qui était assez intéressante pour les deux équipes. Finalement, c'est ça qui est peut-être un peu paradoxal. En général, il y a une équipe qui est meilleure que l'autre, et là pour le coup, certes, les Marseillais ont davantage dominé, mais les Strasbourgeois aussi se sont procuré des occasions et ont montré des choses très intéressantes.
Et on voit Egan Riley également faire quelques petits gestes d'échauffement. C'est ce qui est devenu assez habituel pour les équipes de Ligue 1, et pas qu'en Ligue 1 d'ailleurs, de faire quelques exercices pour se remettre tout de suite physiquement dans la rencontre. Il y a un stade qui a applaudi le retour des supporters. Je crois qu'il y a quelques banderoles qui se préparent à nouveau. On verra, il faudra qu'on soit vigilant.
Cette fois-ci, pour remettre Maxime, ma courte de tout l'argent qu'il a mis.
Je sais pas.
Moi je sais, à mon avis, non.
Ils n'ont pas changé d'avis à la mi-temps.
Non, je crois pas.
Mais ils devraient.
Après, c'est peut-être pas J'espère que c'est pas un intégral Mac Courte dans les banderoles, si tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Si,
je vois Longoria en bas à gauche, voilà. Déploie un Longoria.
Peut-être qu'effectivement, on peut également en vouloir à d'autres.
Oui, on peut peut-être mettre le trio Longoria, Benassia, De Zerbi quand même aussi.
Ouais, c'est possible.
Et les joueurs aussi d'ailleurs.
On verra bien le message que veut distiller le virage sud. Mac Courte, 300 millions sur des chevaux, oui, parce qu'il a investi également dans les courses.
Mais il a le droit, c'est son
Longoria,
argent.
Longoria, Benatia, combien ont coûté tous vos ânes? Des petits jeux de mots, voilà, ça peut plaire ou pas. Enfin, en tout cas,
il n'y a pas d'insulte et le message est passé.
Et d'humeur à vouloir passer des messages. C'est reparti en tout cas dans cette seconde période entre Marseille et Strasbourg. Ballon pour les Marseillais. Pour CJ Ganarelle qui écarte côté droit pour Timothy Wea. Devant lui, il a une possibilité avec Aminari qui repasse par l'axe avec Landley et Ganarelle.
Oui, l'appel était tranchant avec notamment Abdelli. Il n'a pas été servi, on fait circuler. On veut mettre le pied sur le ballon. En revanche, là, il y a le pied sur la cheville de la part d'Amo Ameyo sur Emerson Palmieri. Le jeu va se poursuivre. On laisse l'avantage du côté de Monsieur Buquet avec désormais Angel Gomez, le centre. Et l'ouverture du score, David Gouiri. La première action de Mouche dans cette seconde période. Repositionné et resté dans l'axe cette fois-ci à Amine Gouiri sur cette première action marseillaise. Il est à la conclusion de cette action de ce centre et en une touche, il trempe Jorgensen qui ne peut rien. 0 pour l'Olympique de Marseille.
Et on a typiquement l'exemple de pourquoi il est important que les arbitres laissent le jeu se dérouler, parce qu'au départ, il y a sûrement une faute sur Emerson Palmieri qui est au sol, qui se prend un bon tampon. Valérie avoir un carton jaune malgré tout, mais on décide de laisser jouer intelligemment et là ça progresse avec Angel Gomez qui a l'intelligence de centrer pour Amine Gouiri. Il avait manqué beaucoup de choses, l'attaquant marseillais en première période, et bien l'entame de match et en seconde période lui permet lui de se rattraper. Amine Gouiri après Harit, Angel Gomez qui est passeur permet désormais à Marseille de mener 1-0.
Et comme quoi, tu vois, la balle arrive d'Emerson, parce que je trouvais qu'Emerson n'était pas assez présent sur son côté et n'avait pas une relation assez forte avec Pachao. Là, c'est Emerson qui sert Pachao. Ensuite, c'est Angel Gomez qui a la balle. Oui. Et comme par hasard, et là, je suis certain qu'à la mi-temps, Bruno Genesio. Ah ouais, il a recadré Amine Gouiri en lui disant arrête de reste un peu plus dans l'axe. On doit finir avec toi. On doit finir nos actions et tu dois être dans l'axe parce que jusqu'à maintenant c'est ce qui portait préjudice à toutes les attaques olympiennes. Et là, comme par hasard, il est plein axe et il fait un petit intérieur du pied gauche. Écoute, tout a été recadré, je pense, et comme par hasard, première action, premier but. Magnifique.
Et là, je vois des petites familles se replacer et le père qui dit on l'a loupé.
Ah ouais.
Ils sont avec les verres de jus d'orange ou de boisson
ou autre chose,
soda ou bière, tout ce que vous voulez dans les mains. Et là, j'ai vu au visage, il dit on l'a loupé. Ils sont arrivés un petit peu trop tard. Faut jamais être trop ambitieux, surtout avec les buvettes du Vélodrome. C'est un petit conseil. S'il y a plus
même en tribune de presse d'ailleurs.
En tribune de presse aussi.
Oui, mais c'est vrai, plus 4-5 personnes de garçons à la pause. Hein.
On est revenu 2 minutes avant le coup d'envoi, ma chère Karine.
Oui, mais je sais pas. Okay. On était en attente de vous. On s'est dit tiens, ils sont en train de manger un petit truc.
On t'a manqué.
Bah, évidemment, exactement. Messieurs, l'évolution des cotes avec Christophe Plenet, parce qu'on rappelle que Marseille vient d'ouvrir le score face à Strasbourg.
1,24 désormais la victoire de Marseille, 4,70 le match nul, 12,50 la victoire de Strasbourg. Je veux partir sur le 2-0 côté à 4 et le 1 partout dont parlait éventuellement Lionel tout à l'heure, et désormais côté à 6.
Merci beaucoup à Amine Gouiri, donc, qui marque le premier but de la saison marseillaise, le premier but de la saison de Ligue 1. On est au Vélodrome, l'ambiance est évidemment belle. Florent Germain et Maxime Thiet, déjà à la mi-temps, il faut pas rater la reprise et on ne part jamais avant la fin d'un match. Ça, ce sont des ordres.
C'est la base.
Oui. Voilà. C'est comme ça.
C'est la base. Il faut toujours croire que va y avoir des buts, puisque juste après la petite pause, attention avec Yacine qui a le ballon, qui va mettre en retrait, enfin dans la surface pour Kondogbia. Attention avec la faute de Geoffrey Kondogbia sur Guessing Yacine qui s'en sort bien techniquement et qui repasse désormais par ses milieux de terrain. Nanasi qui est servi.
On sait que dans un mouchoir de poche, il est capable de s'en sortir. Ça a été le cas sur ce coup-ci pour les Strasbourgeois. Le ballon qui repasse dans le rond central désormais. On a reculé de 40 mètres pour les Alsaciens, mais on est toujours en position. possession, même si là il y a un gros duel, le jeu va se poursuivre, on laisse l'avantage, ça va profiter aux Marseillais. Grosse intervention d'Imad Abdelli.
Abdelli qui va fixer dans l'axe, il a une possibilité avec une frappe, le crochet, Angel Gomez qui tergiverse un petit peu avec Paichao. Paichao qui va enrouler la spéciale peut-être. On a tous vu qu'il allait ou tenter sa chance ou tenter le crochet intérieur. Et surtout Guéladoué. Il va pas surprendre Guéladoué comme cela, le joueur brésilien. 1-0 pour l'OM, le buteur Amin Gouiri, passeur décisif Angel Gomez. Et j'ai envie de dire passeur décisif aussi Rudy Bouquet, très inspiré de laisser le jeu se dérouler comme le veulent les consignes.
Ouais, et en tout cas on a vu un immense sourire sur le visage d'Amin Gouiri qui reflète une forme de libération, un soulagement évident, parce que c'est vrai qu'en première période il a tenté pas mal de choses et il n'a pas réussi grand chose, et là pour le coup sur sa première touche de balle il a fait trembler les filets dans cette seconde période. 1-0 pour l'OM, Amin Gouiri qui depuis touche pas mal de ballons, on le voit décrocher encore une fois, mais en revanche cette fois-ci au cœur du jeu. On l'avait surtout vu désaxer et dézoner en se mettant sur les couloirs,
le côté,
quasiment en frôlant les lignes de touche. Là il vient surtout décrocher, jouer en remise avec ses milieux de terrain, mais là on va même retourner jusqu'à Jorgensen. C'est bien fait aussi de la part des Marseillais qui vont temporiser. On sait que parfois après un but il y a souvent un peu quelques secondes et minutes de folie, la volonté de remettre le pied sur le ballon et de gérer le tempo du match
avec Angel Gomez un peu plus bas que d'habitude, mais c'est bien son positionnement quasiment en soutien de l'attaquant Lionel qui lui a permis d'être passeur décisif.
Ah ouais, moi j'aime bien
Gomez, hein.
Ouais, j'aime bien son positionnement et son activité.
Déjà dans le positionnement il est intéressant parce que c'est un joueur qui joue assez simple, donc il amène de la fluidité.
Il a du volume.
Il a du volume, et même s'il a été un peu maladroit sur deux trois situations de frappe, c'est un joueur qui sait tenter sa chance à 18-20 mètres, donc des opportunités comme en première période il va en avoir à cette position, c'est sûr et certain.
Pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est le meilleur Olympien actuellement.
Ouais, je pense que s'il avait ne serait-ce que converti qu'une seule des trois occasions qu'il a eues, il n'y aurait pas eu de débat. Après, j'aime bien certains matchs d'Abdelli et de Ribière, Lionel, qui donne vraiment le tempo, je trouve, dans le pressing et la récupération
Abdelli,
du ballon.
Abdelli, ouais, plus que Ribière.
Abdelli, là, par exemple, sur la dernière occasion où il va fixer, c'est lui qui sort un gros tacle. Donc, il est en train de fournir une bonne prestation, je trouve. L'ancien Angevin qui a été
la saison dernière, on avait le sentiment que le maillot lui pesait, mais énormément. Là il est totalement libéré, il va au duel et là encore c'est lui qui va gratter un ballon dans les pieds de Nanasi Imad Abdelli, qui pour le coup a pris la juste mesure de l'Olympique de Marseille.
Angel Gomez, ballon qui lui a été donné par Amin Harit avec Højbjerg en retrait pour Geoffrey Kondogbia. 53 minutes de jeu au Vélodrome, 1-0 pour les Marseillais, le buteur Amin Gouiri donc pour le premier but de cette saison 2026-2027 qui a fait vibrer le Vélodrome, plus de 65 000 personnes qui sont présentes, qui mettent l'ambiance et qui, malgré quelques banderoles un peu piquantes mais pas bien méchantes au final, on peut être d'accord ou pas, mais comme tu l'as dit si bien, Karine, il n'y a pas d'insultes, et ça c'est déjà bien dans le bas du virage sud. Malgré cela, on est en train de prendre plaisir avec un OM qui mène un but à zéro. Ballon dans les pieds de Jorgensen.
En tout cas, la performance olympienne jusqu'à présent a de quoi rassurer les supporters. Il y avait déjà eu les précédents matchs amicaux face à l'Atlético et Bilbao qui étaient également de la même teneur, mais là c'est la compétition, c'est un match officiel, le contenu, malgré l'été, la cure d'austérité dont on a parlé tout l'été justement, je pense que les supporters marseillais sont plutôt convaincus voire rassurés de ce qu'ils voient ce soir.
Oui, et d'ailleurs c'est intéressant parce que quand on voit des performances et au final un bon match pour l'OM, hein, même si rien n'est fait, ça mettra encore plus de pression quelque part sur les dirigeants savent qu'on va encore moins accepter le fait qu'il y ait des départs si jamais l'équipe est cohérente. Là c'est bien fait ce que propose Angel Gomez pour Amin Harit côté droit, le passage dans le dos de la part d'Angel Gomez qui redonne à Amin Harit peut-être un ballon en retrait, c'est ce qu'il a vu et voulu tenter, même si ça a été contré par Nanasi me semble-t-il.
Oui, le ballon qui navigue toujours à l'entrée de la surface de réparation avec Gouiri dans la demi-lune. Alors, il est au milieu de trois joueurs, il essaie de se retourner, c'est Diogo Souza qui finalement dans El Mourabet qui va mettre le pied sur le ballon pour les Strasbourgeois et essayer de ressortir sereinement. Voilà, il va éloigner le danger en allant chercher, même si un petit accrochage au sol, le jeu peut se poursuivre. 1-0 donc pour l'Olympique de Marseille grâce au but d'Amin Gouiri à la 46e dès le retour des vestiaires.
Et c'est fini sur les 5 pelouses de Ligue 2. Corentin Roland, les scores.
7 buts déjà marqués ce soir. Victoire de Montpellier 1-0 sur la pelouse de Dunkerque. Montpellier leader provisoire de Ligue 2 avant les matchs de Saint-Etienne demain et d'Annecy lundi. Victoire également de Nancy sur la pelouse de Pau, 1-0. Victoire, première victoire de Sochaux, 1-0 face à Guingamp. Match nul entre Clermont et Dijon, un but partout, même score entre Boulogne et le Red Star.
Merci beaucoup, belle soirée à toi. Retour au Vélodrome, c'est donc Guiri qui a marqué le premier but de cette saison 2026-2027 et donc Marseille mène 1-0 face à Strasbourg. On en est à 55 minutes de jeu, Flo Germain et Maxime Tilliette.
Harit avec Guiri, c'est bien fait, le jeu en triangle pour Timothy Weah qui vient aider les attaquants. Amine Guiri, la frappe qui est cadrée et captée par Jorgensen, mais très belle sortie de balle, quasiment que du jeu en une touche de balle en triangle pour aller au final permettre à Guiri de tenter sa chance, plus en confiance qu'il n'est désormais depuis son but et l'ouverture du score. La frappe un petit peu molle peut-être, en tout cas pas assez appuyée pour venir vraiment inquiéter Jorgensen, alors que là il y a peut-être une faute sur Pierre-Emile Højbjerg, il réclame quelque chose le Danois. Le jeu va être arrêté un court instant et ce sera une touche côté gauche pour les Strasbourg.
Ouais, il en est à sa quatrième roulade là, Pierre-Emile Højbjerg, après un accrochage j'ai l'impression avec Samir El Mourabet, alors qu'on revoit la frappe d'Amine Guiri. C'était presque une situation d'entraînement, on avait le sentiment que les Marseillais avaient travaillé leur ressortie de balle, les redoublements de passe étaient fluides et à la conclusion la frappe captée par Philippe Jorgensen, le jeu qui va pouvoir reprendre, Pierre-Emile Højbjerg qui va reprendre sa place et deux changements vont être effectués du côté strasbourgeois avec Diop, il me semble, Pape Demba Diop et j'ai pas vu l'autre entrant, Giovanni Reina. Deux changements donc pour Hugo Oliveira pour essayer d'insuffler quelque chose dans cette seconde période.
Et le jeu s'est relevé.
Il s'est rassis.
Non, il s'est rassis, ouais. Il est.
Alors, semble-t-il. On va faire appel au soigneur. Protocole.
En tout cas, si jamais il est amené à sortir, tu l'as rappelé tout à l'heure, hein, il doit rester derrière une minute en dehors du terrain.
Il s'est relevé, il va parler à l'arbitre.
En tout cas, il s'est vraiment pris un coup derrière le mollet, hein.
Oui, oui, mais l'arbitre a estimé que il n'avait pas sifflé. Et là, justement, il y a une discussion entre.
Il va aller voir la vidéo. Lionel, ouais.
Attention,
d'accord.
Parce que ça pourrait être du coup un carton rouge, hein, si je ne m'abuse.
Bah ouais.
S'il y a décision de la part de la vidéo.
Ils ne peuvent pas intervenir pour un jaune.
Monsieur Buquet. Non, ils ne peuvent pas intervenir sur un jaune.
Pour un second, sur un deuxième jaune.
Voilà. Mais là, pour le coup, il n'y a pas eu d'avertissement avant ça pour
Elle m'aura. Ça ne vaut pas un rouge.
Ça ne vaut pas un rouge pour moi.
Ah bon, en tout cas, il a été appelé pour cela. Rudy Buquet, qui a sous ses yeux, honnêtement, une vidéo où on voit effectivement El Mourabet. Non, mais en fait, qui fait un mauvais geste, je pense plus stupide et maladroit qu'autre chose, mais qui lui balaye le mollet quelque part.
En fait, c'est le Strasbourgeois qui a le ballon au départ et qui voit Højbjerg arriver dans son dos, enfin, qu'il ne voit pas justement, et qui a un mauvais geste derrière sur la charge d'Højbjerg. Il va mettre sa jambe,
c'est
pour la jambe
geste,
vers
c'est
le
c'est un mauvais réflexe. Hein. Ouais,
quand on revoit, c'est quand même un petit coup de pied. Un petit coup de pied dans le mollet. Gauche de Pierre-Emile Højbjerg. Parce qu'il faut bien resituer, c'est vrai que Maxime, tu as raison de le préciser, c'est El Mourabet qui a le ballon. C'est pas lors d'une intervention défensive que El Mourabet a ce mauvais geste. Donc il fait la passe et derrière il a un mauvais réflexe de donner un petit coup de pied.
C'est un dilemme
avec
là
le pointu dans le mollet gauche.
Soit il met rouge, soit il autorise ce genre de geste.
Ouais.
Donc c'est un...
Je pense que dans ta question il y a la réponse et qu'il est quand même fort probable. Qui mettent un carton rouge et d'ailleurs il va l'annoncer au stade. Donc on va tester justement la sonorisation jusqu'au bout et on va enlever le casque pour voir ce que dit Monsieur Buquet.
Après l'isolage, coup de pied du numéro 29 de Strasbourg, décision finale, exclusion et coup franc direct.
Vous l'avez compris, là, carton rouge pour El Mourabet et coup franc direct en faveur de l'Olympique de Marseille. C'est pas ce qui sera le plus dangereux pour les Strasbourgeois, mais El Mourabet, par rapport à sa gestuelle et au visage, je pense qu'il a compris qu'il est sanctionné par rapport à son mauvais réflexe qu'il n'a pas à avoir. Et comme le disait Maxime, Monsieur Buquet au final ne peut pas tolérer ce qui ressemble à un petit coup de pied sur le mollet, à ce mauvais geste de la part d'El Mourabet. Et du coup Strasbourg, après avoir été mené 1-0 dès l'entame de la seconde période, avant l'heure de jeu, perd un joueur, El Mourabet exclu par Rudy Buquet.
Une demi-heure à jouer pour les Strasbourgeois, une grosse demi-heure à jouer en infériorité numérique.
Pour le Racing.
Ouais. Et l'after qui va se dérouler ici même même hein, ici au Vélodrome. Il y a Jérôme Sillon, Walid Acharchour et Daniel Riolo qui sont juste à côté de nous. Daniel a fait l'amour, hein, lui qui a notamment abordé les sujets des cartons rouges ces derniers jours, suite notamment au trophée des champions, les cartons parfois dégainés un peu trop vite. Celui-ci risque peut-être de faire débat également. En tout cas, nouveau coup franc pour les Marseillais qui peut-être pourraient eh bien doubler la mise sur ce coup.
Allez, avec Emerson Palmiel ou Angel Gomez, qui va le tirer? Il ne reste plus qu'Angel Gomez, donc pas compliqué de deviner.
Tout le monde est parti.
Angel Gomez avec un ballon en retrait repoussé par les Strasbourgeois. Amine Gouiri qui a peut-être hésité à tenter sa chance, mais au final il veut donner à Paichao. L'heure de jeu,
très mal joué.
Il était à droite, le jeu, Paichao était tout seul. Excuse-moi Flo, je t'ai coupé. Mais le jeu, il a essayé de jouer dans l'axe, alors qu'il y avait beaucoup de Strasbourgeois dans l'axe. Et t'avais Paichao qui était tout seul, complètement à droite, au deuxième poteau. Et je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas pourquoi il a choisi ça.
Je pense qu'il veut justement chercher Paichao en imaginant un appel du Brésilien.
Ah ouais.
Sauf qu'il non. Bah j'ai le sentiment qu'il après. Ouais. Après il s'est excusé et Paichao lui a fait le pouce. Alors il y a un nouveau carton là. C'est Kumar cette fois-ci qui va prendre jeu. Amine Gouiri fait signe que c'était un coup de coude sur ce duel, un nouvel Olympien au sol. En tout cas, Pierre-Emile Højbjerg, il a eu de l'influence à temporiser, à faire en sorte de ralentir la reprise du jeu tout à l'heure et forcer l'arbitre à aller voir la vidéo.
Oui.
Bon, sur le ralenti, là, sur ce duel
début,
aérien,
etc. Et
ouais, mais si le jeu avait repris dans la foulée.
Ou si
l'arbitre avait forcé les soigneurs à rentrer, peut-être que les choses ne se seraient pas déroulées ainsi. Donc voilà, c'est encore un protocole qu'il faudra peut-être faire évoluer. On va voir cela, en tout cas là, sur ce duel entre Kondogbia et Sekoumara. Ça semblait léger dans les airs, mais il y a un carton jaune tout de même de sortie pour l'attaquant strasbourgeois.
Ballon côté droit pour Timothy Wey, 1-0 pour l'OM, le buteur Amine Gouiri. Les Strasbourgeois qui sont à 10 contre 11 avec donc ce carton rouge pour Elmour Abed. Pierre-Emile Højbjerg côté droit pour Imad Abdelli. Højbjerg qui redonne à l'ancien Angevin, avec désormais le Danois à nouveau pour Geoffrey Kondogbia dans le rond central.
Ouais, et Hugo Oliveira qui a revu ses plans. On le disait juste avant le carton rouge, il avait deux changements de prévu, Giovanni Reina et Pape Demba Diop qui recevaient les dernières consignes, et finalement on a touché à rien. On va patienter un petit peu avant de prendre la décision. C'est bien défendu, ballon récupéré par Diogo Souza, mais pas pour longtemps forcément. Les Marseillais en supériorité numérique, ils étaient déjà très bons au pressing et au contre-pressing à 11 contre 11, et là sur ce coup ils sont encore meilleur forcément en supériorité numérique.
Allez, Højbjerg qui est pressé par Sekoumara, qui donne la Timothy Wea. J'ai l'impression que les Marseillais, sur certaines séquences, alors ils ont évidemment en tête d'aller marquer le deuxième but pour tuer la rencontre si possible, mais il y aura tellement d'espace avec uniquement 10 Strasbourgeois qu'ils se font un malin plaisir, et c'est le cas maintenant à faire tourner le ballon. Paichao, Højbjerg, Abdelli, on repasse parfois par contre Dogbia, ça risque d'être le cas là avec la charnière centrale et CJ Ganreilet. Donc ils sont en train d'épuiser les Strasbourgeois, Lionel.
Ouais, mais c'est ça. Mais par contre, au lieu de revenir trois fois sous le côté gauche, il vaut mieux qu'ils aillent de gauche à droite pour s'ils veulent les épuiser, et de droite à gauche, tu vois, parce qu'ils cantonnent. Ok, ils font des passes, mais ils ne fatiguent pas trop les Strasbourgeois. Sauf là, maintenant, ils vont d'un côté à l'autre, et ça va les épuiser.
Ouais, pourquoi pas côté gauche avec un peu d'espace désormais, avec Højbjerg qui va chercher Paichao, mais le Brésilien finalement à l'arrêt n'a pas enclenché la première, et on refait circuler vers la droite désormais avec Højbjerg à la baguette, à droite. Meneur de jeu reculé. On passe par Wea jusqu'à désormais Amine Harit le long de la ligne de touche.
Harit qui a eu quelques gestes un peu superflus là depuis quelques minutes, j'ai envie de dire même depuis la fin de la première période, et qui doit être plus précis dans ses tentatives offensives. Emerson Palmieri qui tente
dommage.
Un extérieur pied gauche justement pour Amine Harit, qui lève le pouce pour lui dire au minimum que l'intention était bonne, mais ça file directement en sortie de
la
but.
Il y aura
quand même des changements à venir du côté de Strasbourg.
La réalisation était bonne, son extérieur est réussi à Emerson Palmieri, c'est juste qu'Harit n'y a pas cru et n'a pas fait l'appel dans le dos de la défense des Strasbourgeois. Bon, il a tergiversé un petit peu dans sa zone technique, Hugo Oliveira, l'entraîneur strasbourgeois, mais finalement il a rappelé les deux mêmes joueurs qui se préparaient à rentrer. Il les avait renvoyés à l'échauffement depuis le carton rouge. Attention, récupération haute une nouvelle fois des Marseillais avec Harit qui sert Gouiri dans la surface. Le centre de Gouiri vers Guéladoué qui va contrôler sereinement dans ses 6 mètres, même si attention, il va perdre le ballon et on réclame une faute derrière sur Igor Paichao dans la surface de réparation. Mais les Brésiliens restent au sol.
Ouais, pas sûr, mais on verra. Paichao est convaincu de s'être fait marcher dessus. Là aussi, la vidéo interviendra ou pas. En tout cas, il y aura peut-être et sûrement un visionnage. Ça, c'est clair de la part de la vidéo. Hubert lui montre à Monsieur Buquet, il se passe quelque chose là-bas.
C'est, ouais, lui, l'arbitre.
C'est l'arbitre assistant, Pierre-Emile Hubert. 1-0 pour les Marseillais, 25 minutes encore à jouer. On va regarder quand même la gestuelle de Monsieur Buquet, savoir si ça parle un peu dans l'oreillette. C'est CJ Gann Riley qui donne à Pierre-Emile Hubert.
Ouais, CJ Gann Riley qui a des débuts de crampe, hein. On l'a vu déjà s'étirer là sur sa précédente intervention. On va suivre ça, auquel cas il y a notamment Naïef Aguerd, hein, qui est présent sur la feuille de match et sur le banc de touche. Il a de quoi disputer quelques minutes.
Il va y avoir un pénalty sûrement, parce que Rudy Buquet arrête l'action, ouais. Et quand on arrête l'action, c'est qu'il n'y a quasiment aucun doute. C'est qu'il n'y a quasiment aucun doute. En général, c'est qu'on lui dit il y a une faute très claire et donc vidéo qui est demandée.
Et Rudy Buquet
qui va devoir prendre.
Nous, on a revu les images.
Oui, mais oui. Nous aussi. Mais moi, sur le deuxième, j'ai l'impression qu'il y a pénalty. Hein.
Moi, j'ai pas l'impression.
Il lui balaye le pied d'appui. Si. Enfin, pour moi, il y a une faute. Hein.
On n'en finit plus, alors, parce que c'est un duel. Oui. Les deux sont dans la course à peu près, à épaule contre épaule.
C'est le pied gauche de Guéladoué qui vient balayer légèrement.
C'est vrai que le
pied d'appui de Paciao,
le mouvement de la jambe gauche n'est pas naturel, en effet.
On a vu des pénalties très clairement pour moins que ça. Donc Rudy Buquet qui va expliquer la décision, on va se taire une nouvelle fois. Pénalty ou pas pénalty?
On va l'écouter.
Pénalty.
Après mise en œuvre, faute du numéro 22 de Strasbourg dans sa surface de réparation. Décision finale.
Mais ce qui est énorme avec Rudy Buquet, c'est pourquoi il hurle? Parce que dans tous les cas, vu qu'il a un micro, on l'entendrait très bien, non? J'ai l'impression que c'est un ténor qui fait une représentation. Bon, en tout cas, tout va bien pour les Marseillais. Effectivement, quand on revoit les images quand même, Lionel, c'est plutôt logique. Parce qu'au début, j'avais dit non, mais c'est vrai qu'en les revoyant.
Ouais, il lui touche le mollet.
Sur cet angle-là,
d'autant plus qu'il est en train de récupérer la balle, Pacao, quand même. Hein.
Donc plutôt logique, cas, finalement, cette histoire.
S'il lui enlève pas le pied d'appui, Pacao peut faire son crochet et se retrouver face à Jürgensen. Hein.
Voilà. Les intentions marseillaises récompensées, en tout cas, hein, d'aller presser comme ça jusqu'à la ligne de but adverse avec cette récupération de balle de Pacao.
Peut l'arrêter,
avec son 1m92, le gardien danois prêté par Chelsea, il a de l'envergure, il est capable de se montrer efficace dans cet exercice et il aura face à lui un garçon qui a retrouvé un petit peu de confiance, en l'occurrence Amin Gouiri, le premier buteur de ce match.
Oui, d'ailleurs Jürgensen fait signe à Monsieur Buquet que le ballon n'est pas totalement positionné sur le point de pénalty par Amin Gouiri. Gouiri qui a vécu une première période compliquée et qui peut là, en 15-20 minutes, mettre un doublé et enflammer le Stade Vélodrome. Gouiri qui s'élance face à Jürgensen, la frappe et le contre-pied. Il a ouvert son pied. Amin Gouiri pour aller tromper Philippe Jürgensen qui était parti sur sa droite. Amin Gouiri l'a vu, plat du pied. Et du coup, les Marseillais qui prennent les devants 2-0 pour l'Olympique de Marseille, doublé d'Amin Gouiri.
Plat du pied, sécurité. J'ai l'impression que le suspense est tué ici au Vélodrome avec ce doublé d'Amin Gouiri. Même si la saison passée, attention, les Strasbourgeois avaient arraché l'égalisation en toute fin de match sur pénalty de partout. Mais là, ça sent vraiment bon pour la première de Bruno Genesio sur le banc de l'Olympique de Marseille.
2-0, deux buts signés Gouiri. Lionel, c'est vrai qu'on avait eu notamment Amin Gouiri en interview sur RMC cet été. On lui disait il faut qu'il prenne de l'épaisseur, il faut qu'il ait un rôle nouveau après les départs de Greenwood, après les départs d'Aubameyang. En plus, il a une relation particulière avec Bruno Genesio qu'il connaît par cœur et qu'il a lancé en Ligue 1. Là, c'est quand même important. Premier match doublé, ça va le rassurer, ça va lui donner un petit peu des ailes.
Oui. Pour prendre de la confiance, il n'y a pas mieux. Surtout que sa première mi-temps, elle n'était pas exceptionnelle, mais c'était pas trop de sa faute à la limite, parce qu'il dézonnait beaucoup. C'était surtout une incohérence, je trouvais, dans le fonctionnement, c'est-à-dire à partir du moment où il dézonnait, derrière personne n'en profitait, mais lui il manquait un peu trop d'influence dans la surface de réparation, là où il est très fort, parce que avec ses petits crochets il est capable de créer justement des fautes, comme on a vu. Bon, là c'était sur Pacao en l'occurrence, mais là c'est normalement lui dans les 30 mètres ou dans la zone de finition. Il est capable de faire ça, donc c'est là qu'il faut qu'il soit. Bruno l'a recadré. Alors là, je ne vais pas le juger sur le pénalty, mais c'est vrai que 2-0 mentalement.
Attention, la paire de balles de Kondogbia, l'accélération top. Derrière. derrière. Le centre à venir probablement. Est-ce que ça va tarder? C'est parti de la part d'Ortega qui vient d'entrer en jeu. L'attaquant arrivé tout juste du Real Madrid. Bon, c'est pas sa spécialité. Il est plutôt habituellement à la réception des centres.
Les centres,
celui-ci file directement en touche.
Messieurs, rapidement, on fait l'évolution des côtés. Christophe Plenet, on rappelle Marseille qui mène 2-0.
Oui, Aurélien a raison. Un peu de suspense. A priori, notre partenaire ne propose même plus la victoire de Marseille. 55 le match nul. 450 la victoire de Strasbourg. Et le 3-0 est à 2,65.
Karine Galli. 22h17, vous êtes sur RMC avec Lionel Charbonnier. On vous rappelle, c'est la reprise de la Ligue 1 ce soir. L'an dernier, Marseille, pour sa première journée, avait été battu par les Rennais. Le cirque avait commencé avec la bagarre entre Raw et Rabiot. Mais là, tout va mieux pour les Marseillais. Marseille qui mène 2-0 face à Strasbourg. Deux buts signés Guiri. Strasbourg qui est réduit à 10. Florent Germain et Maxime Tillette, a priori, sait-on jamais. Mais cette première journée pour Marseille va bien se finir.
Ah oui, là, s'il y avait un...
pas de bagarre ce soir,
non,
quand
non,
même.
Non,
pas de
bagarre,
ouais, c'est ça. Pas de défaite non plus, ça serait mieux, tu vois. Mais
s'il y avait un scénario totalement inattendu, avec
ouais, 20 minutes,
un Marseille qui se fait rattraper par Strasbourg, ce serait vraiment à n'y rien comprendre. Parce qu'il y a tous les éléments.
Attention.
Ici, là, il y a une possibilité pour les Strasbourgeois d'entrer dans la surface de réparation avec Guéladoué de déborder. Oh, il a manqué son centre, Guéladoué, malheureusement pour les Strasbourgeois, ouais. Alors qu'il y aura un changement à venir. Pourquoi et une entrée importante. La poignée de main, la petite tape entre Genesio et Naïef Aguerd, qui donc est dans le groupe. On se demandait s'il était véritablement prêt à débuter. En tout cas, s'il était sur la feuille de match, c'est bien que le staff médical estime qu'il est totalement remis. On rappelle qu'il revient d'une pubalgie, d'une opération lui a valu de longs mois d'absence et des doutes même de la Real Sociedad. C'est ce qui a un peu fait clocher son transfert. Non pas que la visite médicale a été manquée, mais que le club espagnol voulait un Naïef Aguerd quasiment à 100% d'entrée et lui a dit écoutez, c'est pas possible, j'ai un protocole de reprise et je dois reprendre progressivement. C'est ce que fait l'OM avec donc un petit quart d'heure pour le défenseur marocain qui est entré à la place de Sidi Egenray.
On peut se dire qu'à 2-0 et en supériorité numérique, il va jouer dans un fauteuil, mais peut-être pas, hein. Il va avoir du travail face à notamment Jacobo Ortega qui joue sa première sous le maillot strasbourgeois, lui qui est arrivé pour une dizaine de millions d'euros du Real Madrid, qui a surtout évolué avec la Castilla principalement. Exactement,
ouais,
il y a
eu
trois changements côté strasbourgeois. Mara, Amo Ameyo et également Souza qui sont sortis. Les entrées donc d'Ortega, de Diop et de Reina qui étaient prêts déjà depuis de longues minutes pour faire leur entrée en jeu. On va voir, hein. Il y aura des espaces sans doute dans le dos aussi à gérer pour Naïef Aguerd qui dispute ses premières minutes là et qui devra gérer cela avec, on imagine, une domination marseillaise, même si depuis quelques minutes le ballon est surtout dans le camp des Olympiens.
Bon, après c'est un coaching assez intelligent quand même de la part de Bruno Genesio aussi de donner
lancer,
du temps de jeu tout
sûr.
De suite Lionel à des joueurs qui en ont besoin comme Naïef Aguerd et surtout dans une physionomie de match où il n'y aura peut-être pas de ballon en profondeur,
ouais,
et où il
ne
va pas être amené à devoir accélérer.
Et puis tu montres aussi aux futurs acheteurs, aux futurs intéressés que voilà, il rentre aussi. Il est rétabli, c'est aussi un message envoyé, je pense.
Oui, parce que Naïef Aguerd, c'est quand même pas le premier défenseur venu. Et,
c'était combien la somme?
C'était au-delà de la dizaine de millions d'euros. Un petit peu moins. Avec les bonus, on arrivait à 10.
Mais est-ce que si Timothy Weah sort, Naïef Aguerd peut porter le brassard? Sachant
non.
que le transfert n'a pas eu lieu.
Logiquement.
Ah, c'est un cas d'école, là, désormais.
C'est une bonne question.
Ouais, mais sauf que c'est pas lui qui a refusé.
Ah bah oui,
Aguerd
a dit qu'a priori, par rapport aux échanges qu'il avait eu avec l'entraîneur, il avait préféré rentrer à la maison.
Ouais, l'entraîneur comptait sur lui et enchaîner les matchs dès le mois d'août.
C'est sûr, mais ça n'empêche pas que comme le dit Lionel, les clubs se réveillent et se rendent compte. Ah ouais, Naïef Aguerd là, c'est vrai, on l'avait oublié, international marocain reprend la compétition et qui a pas l'air si mal que cela. Une offre, comme je le disais, autour de la dizaine de millions d'euros, même si je crois que c'était un petit peu moins de la part de la Real Sociedad. Marseille le cédera, hein, parce que
alors qu'il a coûté beaucoup plus quand même, Flo. Hein.
Oui, mais à un moment donné, Karine, les soucis financiers font
parce que t'as le salaire aussi, hein.
L'OM, voilà.
Oui, mais il a été acheté trop cher.
Je le rappelle souvent, l'OM avait une masse salariale la saison dernière de 160 millions d'euros. Et l'objectif, c'est de la baisser à quasiment 90 millions. Donc quasiment la réduire de moitié. On parle souvent des indemnités de transfert, mais l'enjeu majeur, il est peut-être plus au niveau de la masse salariale. C'est en tout cas ce à quoi s'est engagé la DNCG, enfin l'OM vis-à-vis de la DNCG.
Et c'était la masse salariale la plus importante de l'histoire du club, il faut le rappeler aussi.
Ouais, mais ça après, notre baguette est plus chère aussi chaque jour. Donc j'ai envie de dire, les clubs ont toujours. Vous prenez tous les clubs, on est sur une tendance où la masse salariale augmente. Donc en fait, chaque club a quasiment la masse salariale qui augmente.
Moins on a d'argent, plus on a la masse salariale.
Non, les droits TV,
le problème il est là, mais c'est aussi le foot qui est de plus en plus
uniquement les dirigeants. Mais sauf que les dirigeants d'autres clubs ont peut-être mis le coup de frein à main il y a peut-être déjà 2-3 ans, contrairement à Marseille qui a continué
les dépenses importantes. Retard, je pense.
C'est très probable. En tout cas, ça a été un arrêt net, peut-être choquant pour certains supporters, on le disait, par rapport aux banderoles qui montrent une certaine incompréhension des tribunes. Mais malgré tout, en ce sens, on dit que Franck McCourt, attention, il y aura un carton jaune là, justement, pour Naïef Aguerd qui est en retard. On dit que Franck McCourt doit être salué. Il a aussi une part de responsabilité parce que ça reste le patron à bord et il n'aurait jamais dû accepter ou découvrir, faire mine de découvrir fin décembre que la situation financière du club, parce que ça, c'est ce qui a été annoncé, était catastrophique. Donc il y a peut-être eu une erreur là-dessus, d'un vrai patron comme Franck McCourt.
Ça, c'est ce que Mehdi Benassia a dit à France Football, sauf que derrière il y a encore le recrutement notamment d'Abdelli. Donc s'il n'y avait plus un radis dans les caisses, a priori il n'y avait pas d'argent même pour prendre Abdelli qui était libre 6 mois plus tard.
C'est pas faux.
Ça reste une opportunité de marché.
Ça reste une opportunité de marché.
Mais comme non, mais ça reste des sous à sortir. Si t'as plus d'argent, t'as plus d'argent en fait. Et c'est ce qui est dit dans l'interview. Qui découvre que là,
oui,
c'est.
Oui, non, mais moi, je parlais pas du tout en fait de l'interview de Benatia.
Ah, d'accord, pardon.
Tu as raison de le signaler, parce que c'est vrai que c'était un peu la version défendue par Mehdi Benatia. C'est vrai qu'on peut éventuellement se poser la question du recrutement d'Abdelli. Mais un club se doit aussi d'avoir certains actifs et des joueurs qui sont engagés sur une certaine durée pour pouvoir être vendus, parce qu'au final, les joueurs qui sont mieux vendus, ce sont les joueurs, par exemple, comme Timber. Abdelli ne sera pas le cas, mais qui ont 3, 4, 5 années de contrat. Sinon, il est très difficile de négocier un transfert quand on a que 1 ou 2 ans. Donc, c'était sûrement le calcul peut-être manqué de la part des dirigeants. Il y aura deux entrées avec Derek Cornelius, me semble-t-il, et Nadi.
C'est Cornelius
qui va. Ouais. C'est pas. Oui, si. C'est
ah non, il y a 3 changements. Il y a Kélian
Abdallah. Cornelius qui met son maillot et du coup l'entrée en jeu également de Tochukwu Nadi. 2-0 pour l'OM, doublé Lamine Gouiri.
On rappelle que Marseille donc fait sa rentrée ce soir avec la reprise de la Ligue 1 et tout va bien pour les Marseillais. 2-0 face à Strasbourg juste après le match, juste après le live. Place à l'afterfoot en direct du Vélodrome avec, on l'a dit, Jérôme Sillon, Daniel Riolo et Walid Acherchour. En tout cas, Marseille qui est en train de se rassurer, Lionel, et qui fait un bon match plutôt. Alors évidemment, il y a des circonstances avec cette exclusion de Strasbourg, mais même avant ça, c'était plaisant.
Oui, c'était plaisant, surtout dans le jeu. Ça manquait à la finition. On l'a dit, il y avait des frappes qui étaient non cadrées, mais les situations de jeu, les situations de frappe étaient là. Il y avait les occasions. Après, il fallait régler la mire. Ça a été chose faite, surtout en recadrant Guiri dans l'axe, en lui demandant de rester un peu plus dans l'axe. Mais c'est vrai que c'est plaisant. Et je vois, moi, une équipe olympienne qui joue en bloc, très solidaire. Et je trouve ça cohérent. Je vois la patte de Genesio. Je vois pas d'individualité. Je vois un bloc olympien.
Bah attention tout de même là, le centre qui va être dégagé de la tête, mais il faut vraiment les dégager là. Ouais, c'est fait par Emerson. Il y avait au premier poteau Aguerd qui avait dans un premier temps mis la tête pour éloigner le danger, pas pour longtemps, et ensuite Emerson qui va dégager le ballon dans les tribunes. Ça va faire souffler tout le monde, mais ce sont toujours les Strasbourgeois qui sont aux abords de la surface de réparation, en l'occurrence Guessim Yassine qui va essayer de provoquer en 1 contre 1 ou en 1 contre 2 plutôt, avec le bon retour défensif de Peixão qui contribue à l'effort collectif avec Giovanni Reina qu'on va découvrir dans notre championnat après fait plusieurs saisons en Bundesliga.
C'est un bon joueur.
Lui qui est à la relance. Attention, le centre, il était bien posé. La frappe derrière après cette mauvaise relance, encore une fois, de la part des Marseillais. C'est Kessim Yassine qui a tenté en première intention, en pivot, de tromper Geoffrey Delong au premier poteau. Ouais, ils sont au duel aérien, ils sont présents, en tout cas, les Strasbourgeois, notamment avec la taille de Jacobo Ortega qui est entré en jeu. Et alors qu'on va effectuer désormais les changements côté marseillais, les applaudissements pour Geoffrey Kondogbia qui va céder sa place à Derek Cornelius, poste 2 pour poste.
Ouais, les Marseillais qui sont à peine mis en danger sur ces opportunités-là d'entrer dans la surface de la part des Strasbourgeois. On fait en sorte qu'il n'y ait pas d'opportunité de tir véritable pour Geoffrey Delang qui signerait bien un clean sheet. Hein. Lionel, c'est pas un cliché de dire que c'est un détail pour les gardiens.
Non, non.
Parce que pour la confiance, c'est important. Alors que Abdelli et Harit cèdent leur place pour les entrées en jeu donc d'Abdallah et de Nadi. Je regardais dans mes petits chiffres là, dans un petit dossier que j'avais, les chiffres exacts pour Naïef Aguerd. En fait, il y a eu deux offres, une de Al-Sadd récemment qui justement correspond à 8 millions d'euros dont je parlais. Ça aurait été plus pour la Real Sociedad, hein, qui était pas loin de proposer 15 plus des bonus, d'où le petit la petite déception de la part des dirigeants marseillais aussi. Mais il faut bien le différencier du dossier Pierre-Emile Højbjerg, parce qu'il y a eu vraiment quelque part une mésentente sportive entre le défenseur marocain et notamment le secteur sportif de la Real Sociedad. 6 minutes encore à jouer avant la fin du match, 2-0 pour l'OM.
Qu'est-ce que t'en penses, Flo? Est-ce que tu crois que c'est un message qu'a envoyé, ou le fait de changer toute la défense et toute la charnière centrale olympienne là, parce que Kondogbia est sorti?
Non, je crois pas. On va assumer quand même
essayer des choses pour l'avenir.
Bah écoute, peut-être, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que Kondogbia est un joueur fragile. Ça, on n'a rien inventé. Kondogbia, d'ailleurs, il semblait avoir des petites douleurs. Je ne sais pas si c'était des crampes ou quoi, mais
pendant
le match. Pendant le match, ouais. Il est souvent ménagé en semaine, donc c'est un joueur qui, avec l'âge, avec l'accumulation des blessures ces derniers temps.
Ne dis pas fort si tu veux le vendre.
Bah oui, mais tout ça fait que faut aussi réfléchir.
Il est jeune, il court comme un poulet.
À la suite, hein,
je crois savoir qu'ils sont même prêts à le libérer s'il y a service rendu et pour gros salaire à économiser.
On
n'est
pas loin des 500 000 euros bruts par mois, hein, faut vous rendre compte. Hein. Il le dit lui-même dans une chanson, je peux plus jouer comme à l'époque de Séville. Hein, donc c'est pas nous qui l'avons inventé. Hein. Vous savez pas qui fait une chanson, hein, Geoffrey Kondogbia?
C'était il y a quelques mois, non?
C'est l'un de ses passe-temps. Bah tu t'apprends chanson Kondogbia. Elle est pas si mal.
Non mais Flo,
elle est pas si mal. Elle est pas si mal.
C'est-à-dire que tu mets où le curseur?
J'ai vu bien pire.
C'est-à-dire
de la part
qu'en
de
fait tu la mets au niveau de celle de Tony Parker et de Yuri Djorkaeff par exemple.
Non,
Même Fils de Paille qui avait fait aussi.
Yuri, il a fait une chanson.
Tu compares avec Bolly Waddle de l'époque.
Collector, c'est magnifique. Ça, c'est au pontonnant de la musique. Enfin, Waddle, Chris et Basil Bolly, ça, c'est de la musique.
Ils me dépasseront jamais.
Ah, c'est. Écoute, on va pas juger les goûts musicaux. J'ai dit que c'était pas trop mal. Après, j'irai pas forcément le mettre dans la voiture ce soir en rentrant à la maison, mais voilà. Donc, Kondogbia un peu fragile. Non. Kondogbia un peu fragile. CJ Gan-Riley, c'est un joueur qui a assez peu joué dans les matchs amicaux, enfin en tout cas qui n'était pas dans les titulaires annoncés. Là, il l'est ce soir en l'absence notamment de Balerdi. Donc voilà, faudra effectivement qu'il y ait des possibilités pour répondre à ta question, Lionel, des solutions en défense notamment.
Qu'est-ce qui t'a fait sursauter, Lionel?
L'accélération et l'enchaînement technique.
C'est dommage parce que l'ouverture de Nadi était vraiment très belle, limite transversale chercher le jeune ailier marseillais. En revanche, sur le crochet, le ballon a fini directement dans les panneaux publicitaires.
Abdallah qui sort d'un prêt à Tarragone, parce que vous savez que l'OM a un club un peu filial en Espagne. Alors, est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. C'est un. c'est pas la priorité de nos dossiers, de notre enquête, hein, pour vous dire la vérité, mais il faudra quand même suivre, voilà, parce que ça avait été un peu initié par Pablo Longoria notamment, qui est un club dans lequel certains jeunes pourraient s'aguerrir. Donc il revient, ça s'est pas trop mal passé d'après quelques échos, même si on suit pas à 100% l'évolution de Tarragone, pour être honnête. Donc là, il est lancé, et même s'il s'est un peu manqué sur l'accélération sur ce côté droit, ce sera peut-être un joueur qui aura du temps de jeu dans cette saison compliquée pour recruter.
Accessoirement, le neveu de Tofilou Maoulida.
Aussi, ouais, du roi des bandelettes.
Exactement. Effectivement, toi, Filou Maolida, qui doit regarder avec attention, je ne sais pas s'il est au stade, les performances de Kylian Abdallah. Ballon pour Aguerd, qui fait des grands gestes et qui a parfois des allures de patron, même si physiquement, il est évidemment uniquement sur le retour. Jeffrey Delang pour Cornelius.
Oui, Cornelius, qui va pouvoir aller de l'avant avec un nouveau décrochage de Angel Gomez, qui touche énormément de ballons, qui lui, au départ, est numéro 10 dans ce 4-2-3-1 et qui, parfois, recule pour toucher le cuir et orienter le jeu. C'est encore une fois lui qu'il le fait. On a beaucoup vu Pierre-Emile Højbjerg le faire, mais ils alternent les deux et pour l'instant ça marche plutôt bien en effet dans ce milieu à 3 avec Abdelli qui certes a cédé sa place à Tochukwu Nadi, mais voilà, il a vite trouvé son entente au milieu de terrain Bruno Genesio cet été.
Il y aura un coup franc sur le côté droit pour les Marseillais à 2 minutes et 30 secondes de la fin du temps réglementaire. 2-0 pour les Marseillais, doublé d'Amine Gouiri. On rappelle que la tâche pour les Strasbourgeois était encore plus compliquée avec le carton rouge pour El Mourabet suite à un mauvais geste, un mauvais réflexe presque.
Ouais, il aurait pu s'empêcher de le faire, mais effectivement.
Ouais, il aurait dû s'empêcher, mais ça allait tellement vite que il doit s'en vouloir. En tout cas, il montrait l'attitude d'un joueur qui a compris qu'il avait fait une erreur avec ce coup de pied au mollet, sur le mollet de Pierre-Emile Højbjerg. Emerson Palmieri côté gauche pour Paixão
le long de la ligne de touche qui va, non, il va pas essayer de provoquer, il va repartir vers l'arrière sereinement alors que certains supporters sont déjà en train de regagner les travées du Vélodrome. Bah, il reste 2 minutes du temps réglementaire, ça semble plier, mais on ne sait jamais avec Paixão. L'accélération, le centre au second poteau un tout petit peu trop fort. Yanadi qui va quand même garder la possession pour les Marseillais. Le 1-2 avec Timothy Weah, c'était compliqué mais c'est mal dégagé par la défense.
Le troisième, et il est signé Kylian Abdallah pour l'Olympique de Marseille. La fête est belle jusqu'au bout pour l'OM ce soir. Ça fait 3-0 face à Strasbourg. Et il fête ça avec quelques minots du banc des remplaçants. Il n'y a pas de bandelette a priori à la Tofilou Maoulida. Mais qu'est-ce qu'il doit être fier, Maoulida, pour voir ce gamin Kylian Abdallah lancé donc en fin de match par Bruno Genesio, qui rentre de ce prêt à Tarragone et qui a tenté sa chance très opportuniste dans un tout petit trou pour tromper au premier poteau Jürgensen, qui s'attendait sûrement à une frappe enveloppée, et finalement il choisit de fermer le pied Kylian Abdallah pour permettre à l'OM de mener 3-0.
Et voilà, on ne part jamais avant la fin de match, parce que bravo à ce jeune joueur, on l'a dit, le neveu de Maoulida, et donc Marseille qui mène 3-0. Elle est belle, hein, parce que franchement c'est vraiment sur est-ce que Jürgensen peut l'arrêter ou pas?
Il est même, pas net, ouais, il doit quand même, il était parti normalement, je pense qu'il pensait son premier poteau couvert par son propre joueur et qu'il n'a pas tendu le pied, ça l'a surpris Jürgensen. C'est un peu une erreur des deux, quoi. Mais normalement le joueur aussi qui est juste devant lui doit couvrir le premier poteau.
Magnifique en tout cas, but d'Abdallah, et Marseille qui a priori va pouvoir fêter une très très belle victoire 3-0. Marseille qui commence parfaitement sa saison. On rappelle que le week-end prochain Marseille jouera quasiment à domicile, parce que ça sera au stade Louis II à Monaco en clôture de la journée. Du côté de Strasbourg, c'est compliqué parce que deuxième
attention,
journée
Maxime,
réception
pas
de Lens.
Je crois savoir que le déplacement ne sera pas autorisé pour les supporters olympiens, à vérifier, mais il me semble que au niveau préfectoral c'était dans les tuyaux en tout cas.
C'est pas officiel.
Il y a une parade qui avait été trouvée aussi pour éviter justement l'achat de place par des Marseillais.
C'était il faut avoir un historique sur le site. C'est traditionnel depuis très longtemps. Mais pour toutes les rencontres, les Monégasques font attention à ça. 7 minutes de temps additionnel. Nil Mopé a fait son entrée à la place d'Angel Gomez.
En revenant.
Et je crois qu'on peut le dire, l'OM est leader de Ligue 1.
Je crois qu'on peut le dire.
En tout cas, Strasbourg, qu'est-ce qu'ils prennent comme but depuis le début? C'est un truc de fou.
les matchs
c'est 3 par match.
C'est 3 par match. Et bah ça avait mal commencé avec le Sporting, hein, 7-0 je crois.
7-0, ouais, c'est ça.
Mais effectivement, c'est une campagne de matchs amicaux qui a été désastreuse. Et là, c'est confirmé avec Paixão. Attention, côté gauche, qui donne ce ballon à Emerson. Il y a un beau aux armes dans les travées du vélodrome qui tranche avec toute l'inquiétude qui plane autour de l'OM et de ce mercato inexistant dans le sens des arrivées. Et du souhait de vendre énormément, mais il y a un aux armes vibrant au vélodrome.
Et il faut profiter. Hein. Ils savourent les Marseillais à faire tourner le ballon dans cette ambiance.
On l'a fait vivre un petit peu, effectivement. On l'a entendu, le aux armes, les deux virages qui se répondent. En tout cas, Marseille qui commence parfaitement sa saison. On rappelle, c'est l'ouverture de la Ligue 1 dans quelques instants. C'est l'after foot en direct du Vélodrome avec Jérôme Tignon, avec Walid Acherchour, avec Daniel Riolo. Marseille qui mène 3-0. Marseille qui n'a pas encaissé de but. Guiri par deux fois. Et le tout jeune Abdallah, le neveu de Maoulida, qui marque avec un but plein d'audace. 3-0. Strasbourg qui est réduit à 10. On le rappelle puisque El Mourabet avait pris un carton rouge direct suite à une petite savate sur le pauvre Heuschberg. Messieurs, on est dans les arrêts de jeu.
Oui, avec Aguerd qui a le ballon, le temps additionnel qui était de 7 minutes. Il y en a déjà 2 de passés. Ballon perdu par Nadi et ça avance fort pour les Strasbourgeois qui veulent pourquoi pas réduire l'écart et en tout cas sauver l'honneur. Guéladoué sur le côté droit qui va essayer de centrer pour Ortega. Le bon retour défensif de Nil Mopé qui fait l'effort nécessaire pour venir stopper Guéladoué.
Ça montre qu'il est là, en tout cas dans les intentions et dans l'énergie collective à faire ce gros repli défensif jusqu'à sa surface de réparation et empêcher le centre de Guéladoué pour les Strasbourgeois. Alors bon, faut pas non plus totalement s'inquiéter du côté Strasbourg. On a vu plutôt une bonne première période de la part des hommes d'Hugo Oliveira, malgré, on l'a dit, cette préparation et ses buts encaissés en général par 3 à chaque rencontre. Il va y avoir des recrues, il y en a déjà une annoncée aujourd'hui, le défenseur central Karim Koulibaly, arrivé du Werder Bremen, 20 millions d'euros. Il n'y a pas énormément de clubs de Ligue 1 en ce moment qui peuvent se permettre ce genre d'achat, surtout en défense. Donc c'est une somme assez rondelette sortie par le club alsacien. Il y a eu aussi dans la semaine Jaylon Mitchell qui est arrivé au même poste pour 8 millions d'euros du Sturm Graz. Donc voilà, il y aura sans doute encore des renforts offensivement. On sait que Diego Moreira a rejoint l'AC Milan il y a de ça quelques jours contre une bonne cinquantaine de millions d'euros. Il va encore falloir renforcer cet effectif. On parle notamment de David Washington qui pourrait être prêté de la part de Chelsea. Certains supporters rêvent, d'autres un peu moins, de Mykhailo Mudryk qui revient d'une suspension pour dopage et qui est peut-être un petit peu dans une impasse à Chelsea et qui verrait peut-être d'un bon œil l'idée de se relancer en Alsace. On va voir, en tout cas l'effectif proposé ce soir par le RC Strasbourg n'est pas forcément celui qu'on verra à la fin du mercato.
3 minutes encore à jouer dans le temps additionnel. 3-0 pour les Marseillais, doublé de Guiri et but du jeune Kylian Abdallah. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Buquet qui intervient.
C'est un peu chauffé là entre Omo Bamidele et Amine Guiri.
Et Amine Guiri qui prend ses distances. Monsieur Buquet fait sûrement signe et explique au défenseur strasbourgeois que bon, il a déjà sorti un carton rouge, que bon, sûrement le score est fait et que c'est pas la peine d'avoir des gestes inutiles pour se chauffer avec Amine Guiri. Ballon pour Paixão au côté gauche qui va provoquer, essayer de se rapprocher de la surface de réparation, donner à Nil Mopé. Nil Mopé, un contrôle qui redonne à Paixão pour Nadi. Nadi côté droit vers Abdallah. C'est finalement Guiri qui va donner ce ballon.
Ouais, ça combine bien côté marseillais, désormais côté droit avec Kylian Abdallah. Il peut se faire plaisir, il a déjà marqué, il va repiquer intérieur avec Toshoku Nadi, le petit tour sur lui-même, il va revenir se réorienter, partir côté gauche, Paixão en une touche, on fait circuler jusqu'à trouver la faille, mais pour le moment on recule avec les Marseillais, notamment Højbjerg et Aguerd qui enchaînent les passes.
Ils veulent essayer d'en mettre un quatrième sans trop forcer quand même les Marseillais, parce que le score est fait, ils mènent 3-0, ils vont s'imposer, ils vont pouvoir fêter ça avec les supporters qui ont enchaîner les hauts armes et les qui sont épanés par Marseille. Débordement côté droit de Kylian Abdallah, le centre, la tête de Mopé. Højbjerg, la reprise de volée et le but, Pierre-Emile Højbjerg, la reprise de volée plat du pied puissant du milieu danois. Il s'en fout de ne plus avoir le brassard de capitaine. Ce qu'il veut, c'est marquer, c'est faire vibrer le Stade Vélodrome et c'est permettre à l'OM de mener 4-0.
Mais immense joie collective, hein. Tout le banc est venu célébrer autour de Pierre-Emile Højbjerg comme si c'était leur capitaine en quelque sorte.
Jérémy Neuberg qui s'est frappé le torse à plusieurs reprises et notamment le blason de l'OM pour célébrer ce but qui est vraiment très beau, hein. Le ballon qui retombe, il prend le temps de s'ajuster pour avoir l'équilibre parfait sur sa reprise de volée du droit qui trompe Jorgensen, le gardien danois, pour sa première en match officiel avec Strasbourg qui est allé chercher à 4 reprises le ballon au fond de ses pieds.
Marseille qui régale, magnifique Højbjerg, mais Jorgensen il est fautif là.
Mais il voit rien. Il voit rien, les Strasbourgeois reculent de trop. J'ai vécu des fins de match comme ça, ou des fois un match au Vélodrome aussi, où je ne voyais pas les ballons, j'avais les joueurs qui étaient à 3 mètres de moi, et là c'est exactement ce qui se passe.
Il ne peut pas plus pousser sur ses jambes.
Bah, il ne voit pas, il voit au dernier moment. Et je pense, mais pff, il n'est pas net, bien évidemment. Mais je pense que les Strasbourgeois sont.
Il n'a pas la main ferme.
Sont plus. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'il est surpris. Il voit pas le ballon, il a les joueurs devant lui, mais franchement Strasbourg a abandonné, a reculé. Et là, ça fait une addition quand même assez lourde. Ouais. Je pense que Strasbourg ne méritait pas 4.
La soirée est parfaite pour les Marseillais. On le rappelle en plus avec Hubert qui avait tenté sa chance plusieurs fois. C'était pas cadré. Là, ça finit au fond. On a fait un petit jeu hier dans l'after foot avec.
La sacrée.
Ouais, ah oui. Hugo Oliveira.
C'est terminé. Le score final 4-0 pour l'Olympique de Marseille face à Strasbourg. Un doublé d'Amine Gouiri, un but d'Abdallah, une reprise de volée d'Højbjerg et les Marseillais qui débutent au mieux cette saison 2026-2027. Certes, en coulisses, c'est compliqué. Oui, il faut vendre. Oui, il n'y a aucune recrue. Mais Marseille, au moins provisoirement, est leader de Ligue 1. C'est pas compliqué. C'est la seule équipe à avoir joué avec Strasbourg et à avoir gagné. Mais en tout cas, le score est beau. Il permet au Vélodrome de faire la fête. 4-0 pour Marseille.
Merci beaucoup messieurs, on vivra évidemment les réactions pendant l'after foot. Lionel, un mot, Marseille a vécu une saison cataclysmique, on n'a pas d'argent, on doit vendre, mais Marseille en tout cas a joué en équipe ce soir. Marseille a gagné 4-0, on le rappelle, Gouiri par deux fois, le petit jeune Abdallah, c'est la belle histoire, et enfin Højbjerg, celui à qui on a retiré le brassard de capitaine, qui marque le dernier but. Strasbourg de son côté qui a été réduit à 10 avant l'heure de jeu par El Mourabet. Soirée parfaite pour les Marseillais, le cauchemar pour le Racing.
Ouais, exactement. Le Racing qui pour moi ne méritait pas d'en prendre 4, mais le bloc que j'avais trouvé strasbourgeois très cohérent en première mi-temps s'est complètement liquéfié à partir du moment où il s'est retrouvé à 10 contre 11. Et puis en face, une efficacité retrouvée, j'irai en deuxième mi-temps, parce qu'il y avait eu les occasions pour les Olympiens en première mi-temps. Mais Jorgensen avait fait quelques arrêts, il y avait eu des frappes non cadrées, mais en deuxième mi-temps, on a retrouvé tout ça avec. Je pense aussi à un recadrage de Bruno Genesio qui a remis des joueurs qui devaient finir les actions là où ils devaient être, notamment Gouiri qui marque alors qu'il est resté dans l'axe. Et j'ai trouvé une équipe olympienne très cohérente. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que tous les joueurs, à chaque fois qu'il y a eu un but, tous les joueurs étaient investis. Ils ont célébré ensemble. Ils étaient très investis. Et les joueurs n'ont pas lâché. Quoi qu'il arrive, là, moi, j'ai vu des joueurs très investis pour l'OM.
Lionel, attention Strasbourg, on l'a dit, il y a les meilleurs éléments qui ont été vendus parce que Strasbourg n'est pas dans les clous dans le fair play financier, ils ont eu 13 millions d'euros d'amende, les meilleurs joueurs sont partis, certains évidemment ils sont retournés à Chelsea, il y en a qui avaient été déjà achetés mais qui sont plus là, comme l'ancien capitaine, on le rappelle, comment il s'appelait le capitaine Boudiou, Emega. Et puis il y a la plus grosse vente du club, Diego Moreira, mais il y a de l'inquiétude. 4-0, les matchs de préparation n'ont pas été bons. Hugo Oliveira, le Portugais, il débarque dans ce championnat. La semaine prochaine, c'est réception de Lens. On a vu avec Blouko que les décisions pouvaient être prises rapidement.
Oui, bien sûr. Alors après, s'ils veulent prendre des décisions à partir du deuxième match, moi, je trouvais la première mi-temps quand même strasbourgeoise assez cohérente. À 10 contre 11, oui, ça n'a pas tenu. D'autant plus qu'il y a eu un vrai réalisme côté olympien qui avait tant fait défaut en première mi-temps. Mais moi, je suis pas plus inquiet de ça. Là où je suis inquiet, c'est que pour finir les attaques des Strasbourgeois, à mon avis, ils ont du mal. Moi, je vois un jeu strasbourgeois qui est complètement écrit pour avoir un Panicelli en pleine forme, tu vois. Là, je trouve que c'est Kumara, il fait défaut. Ils ont joué à 10 tout le temps. Je suis pas plus inquiet que ça pour les Strasbourgeois. Mais attention, il va falloir relever la tête très, très vite parce que dans le football, ça va très vite. T'as raison, Karine.